J'aimerais demander à M. Famler de venir me rejoindre. Et avant de lui donner la parole, passez par ici, M. Famler. Juste avant de lui donner la parole, je vous mentionne, je demande à l'Assemblée de prier pour le projet de location des bureaux pour une garderie. Juste le rappeler, le ramener dans vos prières. En principe, de notre côté, tout est fait, tout est signé, tout ça, mais évidemment, la propriétaire de la future garderie est en attente de l'obtention de son permis de la part du ministère. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il y a lieu de prier pour que Dieu vienne bénir. Ça va être un soulagement pour l'Église au niveau de la charge financière. Ça va venir vraiment équilibrer des choses. Donc, c'est un projet à garder dans la prière, s'il vous plaît. Autre chose, je voulais mentionner, on a eu un bel encouragement vendredi soir. On a eu une première rencontre de personnes qui considèrent à s'impliquer dans le nouveau petit groupe qu'on est en train de partir, qui va commencer tranquillement dans les prochains mois. Et c'est un petit groupe un petit peu différent des autres, un petit groupe qui entre dans une mission précise, c'est-à-dire bouffe pour tous. Et donc, Michel et d'autres leaders sont en train de mettre sur pied un petit groupe qui va s'investir dans un champ de mission ensemble. Et vendredi soir, il y avait 27 personnes qui étaient présentes à cette première rencontre. Et c'était vraiment encourageant. Michel m'a partagé que c'était très édifiant. Alors, j'aimerais demander à l'Assemblée de prier pour les gens qui étaient là, mais prier pour l'Église. Notre vision, c'est que ces gens-là qui vont décider, d'accord? Ceux qui étaient là vendredi n'ont peut-être pas tous encore décidé. Ils étaient là pour réfléchir, prier, comprendre, discuter, prendre à cœur. Mais moi, je vois ces gens qui vont entrer dans ce petit groupe-là comme des missionnaires. Et par conséquent, à quelque part dans le processus, il faut y avoir une conviction que je veux prendre ce champ de mission-là à cœur. Donc, je vous demande de prier pour des missionnaires. On vous demande de prier pour que Dieu nous donne des missionnaires qui vont venir former ce nouveau petit groupe-là et qui vont se voir eux-mêmes comme des missionnaires qui sont dans un champ de mission. C'est bon? Prions pour ça. Peut-être que vous n'étiez pas là vendredi et Dieu vous appelle à ça. Peut-être pas. Prions pour ceux qui étaient là, que Dieu vienne clarifier dans leur cœur si Dieu les appelle à entrer dans ce champ de mission. Mais c'est très, très, très encourageant. Et donc, en parlant de petits groupes, on a un de nos pionniers des petits groupes, M. Famler, qui me partageait que son petit groupe existe depuis quelques années. Déjà, depuis quelle année?
Depuis, oui, 97, 96, 97, avec le bien-aimé frère de notre pasteur, Hugo, qui était là avant nous autres. On a eu au moins 45 personnes qui ont fait partie de ce groupe-là. Et puis, on continue régulièrement. Même pour prendre l'âge, là, 80 mois de mars. Ça va bien. On est un groupe de vieux. on accepte des jeunes aussi. On a de nouveau là, depuis deux semaines. Là. Ça va très, très bien.
Fait que Monsieur Famler dirige un petit groupe depuis des années. C'est un fidèle. Puis, on aime ça avoir des témoignages pour juste partager un peu ce qui se passe là. Qu'est-ce que ça apporte aux gens qui sont dans votre groupe? Tout ça, en gros, qu'est-ce que ça leur apporte d'être dans un petit groupe?
Bien, ça leur apporte que les gens se tiennent ensemble, prient un pour l'autre, prient régulièrement à nos réunions aussi, mais dans la semaine, les gens prient ensemble et puis sont réellement contents de prier les uns pour les autres parce qu'on a tellement de requêtes. On continue à remplir ces requêtes-là. Et puis les gens aiment bien ça, réellement.
OK. Puis là, vous nous avez dit qu'il y a deux personnes qui joignent à votre groupe. Qu'est-ce que vous faites pour aider des nouveaux à s'intégrer dans votre groupe?
Alors, quand les nouveaux arrivent, on leur demande de faire leur témoignage. Leur témoignage, il y a deux semaines, c'était monsieur, et puis la semaine d'après, c'était madame qui ont fait leur témoignage complètement. Alors, ça nous apprend à les connaître de plus en plus. Les gens, après ça, peuvent contribuer avec nous autres à engraisser ce groupe-là et puis amener d'autres nouvelles personnes. S'il y en a qui sont libres encore, là. S'il y en a qui n'ont pas trouvé de petit groupe, allez voir M. Famy et puis il va vous diriger dans un groupe. C'est très important de faire partie d'un petit groupe à la relation entre les gens.
Merci, M. Famler. J'aimerais ça prier pour vous, pour votre santé. M. Famler a attrapé un bon rhume, là. Fait que j'aimerais ça qu'on prie pour lui. Vous êtes un modèle pour nous de fidélité, d'engagement, une vision claire de ce que c'est l'Église, et j'aimerais ça qu'on puisse prier pour vous. D'accord? Seigneur notre Dieu, merci pour M. Famler, merci pour les hommes et les femmes qui nous précèdent, qui nous accompagnent. Nous regardons à eux, Seigneur, pour leur persévérance en toi, pour leur fidélité, pour leur vision. Merci, Seigneur, pour le cœur d'évangéliste que tu as donné à M. Famler, son cœur d'organisateur aussi, de prendre soin des gens constamment jusqu'à la dernière minute, Seigneur, tu donnes cette vision claire. Et je veux te demander de le fortifier dans son corps. Il est durement éprouvé depuis plusieurs années avec toutes sortes de problèmes qui surviennent, mais tu le relèves à chaque fois et c'est ta grâce. Et je veux te demander encore une fois de le soutenir. Et je te prie, Père, spécialement de placer à côté de lui un homme qui va prendre à cœur d'apprendre de lui pour prendre la relève aussi tranquillement. Garde-le nous encore bien des années. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. On va regarder ensemble une vidéo qui dure quelques minutes. Puis après ça, on a quelqu'un d'autre qui vient l'avant. Combien d'années que tu es en train de servir là-bas?
Ça fait 4 ans.
4 ans? Combien d'enfants vous avez?
On est rendu à 37 enfants.
Okay.
Cette semaine, on a reçu une petite fille de 3 mois. Je ne l'ai pas connue encore.
Comment les enfants vous arrivent?
Ça dépend. Des fois, c'est les gens autour de où un enfant se trouve qui appellent la police pour dire qu'il y a un enfant abandonné. Des fois, c'est le juge qui nous appelle parce qu'ils nous connaissent. Donc, maintenant, ils savent qu'on est là puis. Tout est fait légalement.
Fait que quand les enfants sont chez vous, ils ont un statut légal. Ils sont comme reconnus par l'État?
Non, il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils arrivent chez nous, sont pas, ils n'existent pas vraiment. Là, c'est nous qu'on les inscrit dans le système et tout ça. Mais c'est quand même un juge qui les a envoyés chez nous.
OK. Comment on peut prier pour vous?
Bien, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez prier. Entre autres, la sécurité. Je pense que c'est moi, c'est les épreuves les plus grandes que j'ai eues, la sécurité autant émotionnelle que physique.
À cause de la violence, ça, tu veux dire?
À cause de la violence, l'insécurité, je ne sais pas si vous avez entendu parler du coup d'État l'année passée, ça a été un temps assez rough, il y avait des couvre-feux, à la dernière minute, les sirènes partaient, puis il fallait que tout le monde soit dans la maison, on perdait les droits de citoyens, donc si tu te faisais arrêter... À ton risque et péril, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont faites violer dans ce temps-là par l'armée, là, parce que tu es arrêté puis tu ne fais pas poser de questions. Ça a été un bout assez rough. Maintenant, c'est juste le crime en tant que tel, le crime désorganisé. Des fois, on pense que même dans la délinquance, il y a des limites morales, tu sais, mais là-bas, ça a l'air qu'il n'y en a pas. Donc, même si c'est une maison pour enfants, même si... On essaie de faire quelque chose de bien dans la communauté. On est en danger. Surtout pour moi, bien, en tant qu'étrangère, j'attire beaucoup l'attention. J'ai eu assez de mauvaises expériences. C'est sûr que je suis ici pour les raconter. C'est qu'ils n'ont pas été si mauvaises que ça, mais ça a été assez désagréable. Puis le côté humain aussi, c'est... Des fois, tu vois tout ça, puis c'est tellement injuste, je trouve ça tellement injuste qu'il y ait des enfants qui meurent de faim juste parce qu'on n'ouvre pas les yeux ou qu'un enfant qui est abandonné dans la rue, ça fasse partie du décor de la ville. Je trouve ça vraiment injuste. Fait que c'est dur, des fois, on ne comprend pas. Puis le sentiment peut-être que c'est pas assez. Tu sais, Dieu, il nous a confié ces enfants-là, c'est des trésors. Là. Je pense qu'il y en a que je sais pas qu'est-ce que je donnerais pas pour eux. Puis en même temps, des fois, tu as l'impression que c'est peut-être je fais pas assez. Tu sais, ça a besoin d'être mieux. Puis après ça, tu es rendu, tu n'as plus de force, puis tu veux faire plus, mais tu peux pas. C'est ça.
S'il y a des gens qui ont cœur d'aider les enfants, tout ça, ou de supporter, est-ce qu'ils peuvent aller te voir après?
Oui.
Oui?
Oui.
OK. Merci, Mélo. Merci beaucoup. On va prier tout de suite, d'accord? Père, j'aimerais te remercier pour l'amour que tu as placé dans le cœur de Mélodie pour ses enfants et tous ceux qui sont impliqués là-bas avec elle. Seigneur, on aimerait te demander de bénir Mélodie, de bénir tous ceux qui se consacrent là-bas et ceux que tu appelles aussi à aller prendre soin de ces enfants qui souffrent de toutes sortes de pauvreté, Seigneur. Je te prie, Père, de les fortifier. Je te prie, Père, Seigneur Jésus, de reposer le cœur de Mélodie en toi. Seigneur, tu vois la souffrance sur la terre constamment et c'est incompréhensible pour nous, Seigneur, comment tu peux tolérer tout ça et voir ça, et lorsque nous, on a juste un petit échantillonnage, nous nous sentons écrasés, Seigneur. Pourtant, tu veux que nous œuvrions au milieu du monde, Seigneur, en te représentant. Et je te prie de fortifier le cœur de Mélodie en toi, qu'elle puisse être paisible comme toi tu l'étais, Christ, au milieu des souffrances, forte comme tu étais. Viens, Seigneur, sauver ces enfants de la pauvreté physique, morale, spirituelle, Seigneur. Qu'ils puissent sortir de leur misère et te connaître, Jésus-Christ. Et que l'Église, Seigneur, vienne faire une différence. Que nous ne soyons pas, Seigneur, comme tes apôtres qui étaient tellement préoccupés de choses qu'ils percevaient comme étant religieuses, qu'ils ne voulaient pas que tu touches aux petits-enfants. Mais au contraire, que nous comprenions ton cœur, Seigneur, pour leur amener Christ à travers notre service et à travers l'Évangile. Père, merci pour ce que tu fais partout sur la terre, à travers ces œuvres. Merci pour ce que tu fais ici, au milieu de nous. Ce matin, on vient devant toi avec des cœurs disponibles. On te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre mieux ton projet, comprendre mieux comment nous pouvons avancer en Église, en assemblée, pour venir faire une différence, Seigneur, et voir d'autres missionnaires partir et venir faire une différence autour de nous, Seigneur, et grandir, Seigneur, en te suivant. Je te prie d'ouvrir les yeux de notre cœur, Seigneur. Je te prie de mettre de côté nos peurs, nos résistances, que nos cœurs soient entièrement disponibles. Et enfin, Père, je te prie que nous ne soyons pas une Église qui écoute seulement ta parole, mais une Église qui met en pratique ta parole. Pour notre bonheur, Seigneur, pour ta gloire, pour le salut des hommes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Matthieu 28. Ce matin, on termine la série. On termine la série « Le chrétien upgradé », qui veut dire le perfectionnement des saints. Ma prière, c'est qu'à travers la série, vous compreniez mieux, que ce soit plus clair dans votre esprit, les choses que nous mettons de l'avant comme anciens, comme conseils. Et j'espère que ça a clarifié. Oscar me disait cette semaine, c'est très pédagogique, puis je ne savais pas si c'était un compliment ou une critique. Il dit « Oh oui, c'est très pédagogique ». Mais c'est un compliment qu'il faisait. Il dit, OK, c'est clair, on voit où est-ce que vous en allez. J'espère que la série a permis de faire ça. Il y avait beaucoup d'informations qui étaient données, moins de prédications qui étaient apportées. C'était volontaire, d'accord? C'est pour que vous puissiez adhérer à cette vision, adhérer à ces choses que nous mettons de l'avant devant vous. La semaine prochaine, je commence une nouvelle série qui va être beaucoup plus courte. À travers celle-ci, celle que je termine ce matin, on a vu ce que nous faisons, ce que nous mettons de l'avant. La semaine prochaine, on va commencer à regarder quelque chose que nous ne faisons pas et qu'on devrait faire ou qu'on ne fait pas assez sérieusement et qu'on doit absolument nous appliquer à faire. Et on regarde ça pour la semaine prochaine. Alors, ce matin, on termine la série en bouclant la boucle. D'accord? Le titre, c'est « Perfectionner pour perfectionner ». On n'est pas prétentieux au point de dire que, par exemple, les anciens qui sont en avant sont... Hein? Il y a certaines fausses doctrines qui circulent des fois dans le milieu évangélique qui disent que tu peux atteindre un point où tu ne pêches plus. Faites-vous-en pas, je ne crois pas à ça. Puis ma femme non plus, juste en étant mariée avec moi. Fait que, prenez ça avec un grain de sel. Mais on pense qu'on peut grandir et chercher à être des modèles pour les autres, malgré toutes nos imperfections. Et donc, on boucle la boucle ce matin en parlant de la formation des leaders. On a commencé en disant que notre mandat comme ancien, comme conseil, c'est de mettre des choses en place, de tout mettre en œuvre pour votre transformation à l'image de Christ. Ce matin, on termine, on boucle cette boucle-là en disant notre objectif, c'est de former des leaders qui vont travailler au perfectionnement des saints. Et donc, la vision se termine seulement lorsqu'on est en train de former des gens qui vont prendre notre place et qui vont entrer dans cette vision-là. Dans cette église, nous nous investissons activement dans la formation de leaders. C'est une valeur forte de l'église depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau avec Yannick, ce n'est pas nouveau avec le conseil d'anciens actuels, c'est une valeur forte depuis des décennies. Personnellement, je suis le fruit de ça. Alexandre Marquis est le fruit de ça. Hugo Étier est le fruit de ça. Et là, je pourrais donner des exemples avec vous dans la salle, d'accord? Mais disons que nous, on est en avant, c'est peut-être plus apparent. Nous sommes le fruit de cette vision d'une église qui forme des leaders, qui s'investit dans des gens qui n'ont peut-être pas tout, qui ne sont peut-être pas si prometteurs que ça, mais qui veulent être formés, qui veulent avancer. Et moi, je suis le fruit de ça. Alexandre, Hugo qui est en train d'implanter à Rivière-du-Loup, Lynn, sont le fruit de ça. Maintenant, je voudrais apporter une précision ce matin, parce que vous allez m'entendre parler de leader constamment, d'accord? Lorsqu'on parle de leader, c'est vrai, on parle premièrement de s'investir dans la vie d'hommes qui vont pouvoir devenir des anciens, des pasteurs. D'accord? Parce que les Écritures nous enseignent que cette charge-là a été donnée aux hommes. De la même manière que dans un foyer, Dieu a confié à l'homme d'être le chef du foyer. Pas parce que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Je sais, j'ai marié une femme très intelligente, souvent beaucoup plus sage que moi. Mais Dieu l'a conçue comme ça dans sa vision. Et on veut honorer la parole de Dieu entièrement. Il y a toutes sortes de bonnes raisons qu'on pourrait voir ensemble à un certain moment. Et donc, c'est vrai, lorsqu'on parle de formation de leader, on parle premièrement qu'on est en train de s'investir dans la vie d'hommes qui vont devenir des hommes de Dieu, qui vont devenir des modèles, qui vont devenir des anciens, des pasteurs, des évêques. Ce sont tous des synonymes dans le Nouveau Testament et qui vont pouvoir travailler à leur tour au perfectionnement des saints. Maintenant, depuis un bout de temps, nous nous investissons aussi de plus en plus dans la formation de femmes comme leaders. Parce que nous croyons que Dieu a appelé des sœurs à donner un leadership parmi les sœurs, à donner un leadership dans des ministères. Et nous croyons que Dieu a un appel aussi pour des sœurs. Et donc, on travaille très fort à reconnaître aussi des appels que Dieu place dans la vie de certaines sœurs dans l'Église. Et concrètement, nous nous investissons là-dedans. D'accord? Alors, pour le reste de ce que je vais vous présenter ce matin, lorsque vous entendez leader, je parle premièrement des hommes, mais je parle aussi de femmes, selon le rôle de chacun, selon l'appel de chacun. C'est bon? Il s'agit donc d'une vision pour former des leaders et envoyer des leaders. Nous avons une vision pour conduire des âmes à Christ, pour en faire des disciples de Jésus-Christ, mais notre vision ne s'arrête pas à remplir cette salle. Ça, c'est vraiment important de le saisir. Lorsque des gens quittent cette salle, cette assemblée, pour aller s'investir dans des projets d'implantation d'église, pour aller aider des assemblées qui ont besoin d'appui, même si mon cœur est déchiré, mon cœur est dans la joie. Alors, notre vision ne s'arrête pas à former des disciples, à aller chercher des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour remplir cette salle. C'est certain qu'on veut la remplir. On veut la remplir pour envoyer. Rick Warren, qui a écrit « Une vie, une passion, une destinée », a une belle citation. Si vous pouvez aller la chercher, s'il vous plaît. « A church should be judged not on its seating capacity, but on its sending capacity. » Une église devrait être jugée non à son assistance du dimanche matin, mais à sa capacité à envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Et c'est un privilège et une joie, même s'il y a des larmes. C'est un privilège et une joie lorsque Dieu appelle des gens à quitter cette assemblée, pas parce qu'ils sont frustrés, pas parce qu'ils ne sont pas contents, pas parce qu'ils ont découvert qu'on était pécheurs, parce que Dieu les appelle à entrer dans la mission. Soit comme pasteur, comme Hugo, comme épouse de pasteur, comme Lynn, ou soit comme les Gosselins puis plein d'autres qui sont en train de répondre aux prières de Yves Descaries à Sorel. J'ai dit à Yves, arrête de prier, s'il te plaît, là. T'as assez prié. C'est bon. Mon cœur est dans la joie. Notre cœur est dans la joie. Nous avons une vision pour ça. Notre objectif, ce n'est pas de remplir cette salle. C'est de conduire des âmes à Christ pour en faire des disciples qui vont conduire des âmes à Christ pour en faire des disciples. Matthieu 28, 18 à 20. Lorsque le Seigneur a donné ce grand ordre de mission, cela impliquait la formation de leaders qui partiraient mettre en place des églises sur toute la terre. Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme notre mandat est de faire des disciples de toutes les nations, ça veut dire que notre mandat est de faire des leaders qui vont aller faire des disciples de toutes les nations. C'est implicite dans cet ordre de mission qui nous a été donné. La formation de disciples doit se poursuivre jusqu'à devenir la formation de leaders. Je répète ça. La formation de disciples doit se poursuivre jusqu'à devenir la formation de leaders. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les disciples de Christ vont devenir des leaders. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'appel de tous de faire ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'appel de tous de partir, admettons, comme Mélodie sur le champ missionnaire. Ou que c'est l'appel de tous les hommes, de devenir anciens. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la formation de disciples doit avoir comme vision qu'elle va se poursuivre et que dans le processus, nous allons discerner parmi ceux que nous sommes en train de former certaines personnes qui ont des dons, qui ont des capacités, qui ont un appel et qui sont appelées à devenir des leaders. Donc, notre formation de disciples doit voir aussi loin que ça. C'est pour ça que lorsque moi je suis en train de m'investir dans la vie d'un frère que je suis en train de former comme ancien en formation, d'une sœur chez qui je vois un leadership qui est là, dans mon esprit à moi, je suis en train de faire de la formation de disciple. Pour moi, le coaching de leader, le coaching de nouveaux croyants, c'est pas mal la même chose de A à Z. Le contenu va changer, les sujets qu'on va aborder, mais je suis toujours dans le même processus. Je suis en train de faire un disciple selon l'appel de chacun, selon les forces de chacun. La formation de disciple doit se poursuivre jusqu'à devenir la formation de leader, parce que Dieu appelle plusieurs à devenir des leaders. Et parmi ces leaders, certains vont rester ici pour faire des disciples ici, travailler au perfectionnement des saints ici. D'autres partiront pour implanter des églises, aider à implanter des églises. Certains vont aller comme pasteurs, d'autres vont aller comme collaborateurs. Quand Dieu a appelé Hugo et Lynn à aller s'investir dans l'implantation de l'église à Rivière-du-Loup, mes parents, Émilien et Louise, ont quitté Chicoutimi pour aller appuyer cette œuvre-là. Dans notre compréhension des choses, mes parents sont des missionnaires qui se supportent financièrement eux-mêmes et qui ne sont pas appelés à donner la direction de l'église. Ils sont appelés à aller aider dans l'implantation d'une église. Alors, une chose qu'on fait dans cette assemblée, constamment, nous sommes en train d'examiner, de prier et de chercher des hommes qui aspirent à la charge d'évêques, d'anciens, de pasteur. Tournez dans 1 Timothée 3 cette fois-ci. 1 Timothée 3, verset 1. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et Paul savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de charge. Moi, personnellement, première année de ma conversion, j'aspirais à la charge d'évêque. Juste une précision, évêque, je l'ai dit tantôt, ancien pasteur, c'est la même chose. Ce sont des synonymes qui aident à comprendre un petit peu mieux le rôle du pasteur. Première année de ma conversion, j'aspirais à la charge de pasteur. Je lisais sur les mauvais bergers dans Ézéchiel et je pleurais. Puis je disais au Seigneur, donne-moi un troupeau, Seigneur, je ne serai pas comme eux. Je n'avais pas ce que je disais, mais c'était là sur mon cœur. C'était là sur mon cœur. Alors, dans cette assemblée, nous cherchons constamment, nous prions pour identifier des hommes qui aspirent à cette charge, qui ont ce désir dans leur cœur. Et lorsque nous voyons de tels hommes qui aspirent à cette charge, nous commençons à les connaître, à prier pour eux, à les examiner, pour voir si Dieu confirme progressivement un appel dans leur vie, des dons dans leur vie, des qualités d'homme de Dieu, l'humilité nécessaire pour être enseignable et grandir, et nous nous investissons en eux. Ça, c'est présent dans notre vision, c'est présent dans notre travail. Je consacre plus de temps personnellement à m'investir dans des leaders en formation que dans la formation disciples de nouveaux croyants, quoi que je fasse les deux. Mais il y a toujours une large partie de mon temps qui est consacrée à m'asseoir avec un frère, souvent avec son épouse, à les connaître, à m'investir dans leur vie. Actuellement, je suis en train de former personnellement 5 leaders. Et les anciens sont en train de faire ça avec d'autres, d'accord? Alors ça, c'est quelque chose d'important dans cette assemblée. C'est pour ça qu'on travaille avec un collège d'anciens. Nous sommes constamment en train de chercher ça. Et dire, Seigneur, montre-nous lesquels, ceux qui aspirent. Si vous êtes de ceux-là, vous aurez juste à lever la main, aller voir un ancien, puis dire, j'aspire. Et Dieu confirmera. Quand je suis allé voir Richard la première fois, puis j'ai dit ça, il m'a regardé, puis il a dit, va prier pour voir si tu n'aimerais pas mieux faire n'importe quoi d'autre que ça. C'est ça qu'il m'a dit pour de vrai. Puis littéralement, j'ai pris le recueil de tous les programmes qu'il y avait à l'université, puis j'ai commencé à passer au travail, en priant. Je suis retourné voir M. Hull quelques mois plus tard, puis j'ai dit, si vous voulez, je m'en vais étudier en histoire, en attendant que vous reconnaissiez que le Seigneur m'appelle. C'était ça ma vision. Et Dieu confirme à travers le temps. Mais notre vision à nous, c'est qu'on est en train de s'investir constamment dans la formation de leaders, constamment. 2 Timothée 2:2, s'il vous plaît. Tournez avec moi. 2 donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce, 2 Timothée 2:1, qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous cherchons des hommes fidèles. Et comme Paul est en train de parler ici vraiment du rôle d'ancien, il parle des hommes. Mais je pourrais aller dans d'autres passages et vous montrer aussi qu'on cherche des femmes fidèles. Mais des gens qui sont fidèles à la parole de Dieu, qui sont conformes dans leur vie avec ce qu'ils prêchent. Pas parfait. Mais ce sont des gens qui ont une certaine intégrité. Ils vivent les valeurs qu'ils prêchent, ils vivent les valeurs qu'ils enseignent. On cherche de tels hommes, puis on fait de la place dans la vie de cette Église. Vous allez régulièrement être placés sous le ministère de gens qui sont en formation. On a ri un petit peu, lorsque vous avez souligné ma fête pendant le repas, on a ri un peu en écoutant mes premières prédications. C'est ça. C'est exactement ça. Mais dans cette assemblée, vous allez être placés sous le ministère de gens qui sont en formation. C'est notre vision. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas seulement parce qu'on est débordé. C'est parce que c'est notre vision de trouver des hommes qui sont fidèles et progressivement, ils vont apprendre eux-mêmes à enseigner. On va leur confier ces choses et ils vont être capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que ce soit à travers les cours bibliques, lorsque vous venez le dimanche matin de 9h à 10h, il y a des professeurs qui sont en formation, que ce soit à travers les petits groupes. Vous êtes placés sous le ministère de gens qui sont en train d'apprendre parce que c'est notre vision. On cherche des gens non selon leur charisme, parce qu'eux autres, lorsqu'ils parlent, « Wow, les gens sont captivés! » Écoutez, ça fait 15 ans que je suis dans le ministère. Je suis très conscient que je ne suis pas toujours un gars très, très captivant. Je suis conscient de ça. Vous ne voulez pas passer un vendredi soir en écoutant un one-man show avec Yannick. Vous d'accord? En tout cas, moi, je ne paierais pas cher. Je ne sais même pas si je louerais le DVD. D'accord? Mais je suis conscient de ça. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est de vous prêcher la parole de Dieu. Alors, on n'est pas tellement impressionné par les charismes, les gens très charismatiques qui flashent et tout ça. Non, ce qu'on cherche, c'est des gens fidèles, des gens qui vivent les valeurs qu'ils prêchent. Puis là, on commence à les remarquer. Un cœur de serviteur, un cœur qui veut avancer, quelqu'un qui est prêt à avancer en tremblant. Et Dieu saura faire la différence à travers les années. Dieu va faire éclore quelque chose à travers cet homme et même à travers ces femmes aussi qui sont appelées à exercer leur leadership à elles. Mais nous cherchons des gens qui sont fidèles. On s'investit dans leur vie pour les rendre capables et ensuite on va leur confier le mandat de donner la direction à leur tour. Il n'y a personne au Conseil des anciens qui voit comme une chasse gardée les postes que nous occupons. J'attends impatiemment le jour où les gens vont commencer à me dire, « Tu sais, Yannick, c'est correct quand tu prêches, mais Alex, quand il prêche, je vous le dis. » Puis quand les anciens vont me dire, « OK, Yannick, si le Seigneur t'appelle ailleurs, on est content si tu restes, mais inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, il y a une relève. » Parce que voyez-vous, notre vision, c'est d'atteindre les nations avec l'Évangile. Notre vision, c'est d'atteindre les nations avec l'Évangile. Il faut qu'on soit constamment dans ce cycle-là. Vous allez le vivre dans vos petits groupes. Vous allez former des gens, puis ils vont partir. Quelqu'un me soulignait ça dernièrement. C'est vrai, puis il y a une douleur dans ça. Quand mon frère m'a annoncé pour la première fois, il m'a dit, « Yannick, je pense que Dieu veut que j'aie implanté une église. » J'aurais de la difficulté à vous communiquer l'espèce de déchirement, de brisement qu'il y a eu en moi. Je l'ai déjà partagé avec l'Assemblée. Ça m'a pris, je ne me souviens plus, entre 1 an et 2 ans avant d'être vraiment heureux de son départ. D'accord? Dans ma tête, « Oh, wow! Le Seigneur est en train d'appeler un missionnaire. C'est génial! » Dans mon cœur, « Pas celui-là, Seigneur. Celui-là, il reste avec moi ici. » J'ai besoin de lui ici. C'est mon frère. La première fois que je me suis rendu à Rivière-du-Loup, en voiture, j'étais avec la famille puis je m'en allais là-bas. Honnêtement, là, dans mon cœur, je me disais, mais qu'est-ce qu'il s'en va faire dans un trou comme ça? Et je savais dans le fond de mon cœur que cette pensée-là était juste liée au fait que je n'acceptais pas encore que Dieu appelait mon frère avec les déchirements qu'il allait y avoir. Il y a un prix à payer pour une église lorsqu'on a une vision claire. Il y a un prix à payer pour les petits groupes lorsqu'on a une vision claire. Il y a un prix à payer comme assemblée, comme famille. Parce qu'on va devoir vivre constamment ces déchirements de laisser partir ceux qu'on aime. Parce que notre vision est plus grande que nous ici au 911 Roland-Terrien. Amen. Comment est-ce qu'on le fait concrètement dans cette assemblée? La jeunesse donne l'exemple. Dans la jeunesse, il y a des leaders jeunesse qui sont des jeunes, un peu plus vieux que les autres, mais ce sont des leaders jeunesse. Dans les petits groupes, nous avons des dirigeants, mais nous recherchons toujours activement avoir des aides dirigeants. Nous faisons du coaching pour les leaders en formation. Depuis quelque temps, Esther et moi, lorsque la supervision des leaders, Esther et moi, on va à l'écart avec des sœurs. On prend juste les dames, puis Esther et moi, on s'investit dans ces sœurs-là. C'est avec une vision que Dieu appelle des femmes à avoir un leadership dans leur rôle, dans leur appel à elles. L'implication d'enseignants en formation dans les cours bibliques. La relève qui a été annoncée tout à l'heure, avec des cours de Sambec pour aller plus loin théologiquement, bibliquement. Dans l'Église ici, on cherche toujours à avoir des anciens en formation sur le conseil. C'est nos Timothées à nous. On ne consulte pas l'Église. On regarde des gens qui aspirent, on voit, on prie, puis on les invite à venir en formation. L'Église ne vote pas là-dessus. La congrégation ne dit pas un mot sur ça. Lorsqu'on va vous les recommander comme anciens, l'Église va se prononcer. Mais ça nous donne une latitude pour inviter des hommes à venir travailler avec nous, regarder avec nous, nous apprendre à les connaître. Et par la grâce de Dieu, on a toujours des anciens en formation sur le conseil. Parce qu'on a cette vision qu'on doit être en train de se reproduire dans des leaders constamment. Au cours des dernières années, on a vu Hugo et Lynn quitter pour aller à Rivière-du-Loup. On a eu quelque temps un ministère envers Jean-Philippe et Catherine Lapierre qui s'occupent de l'église d'Alma. On a Alexandre et Cynthia qui servent maintenant au milieu de nous. Qui sait ce que Dieu a comme appel sur eux à long terme, sur leur vie? Pour les prochaines années, ils sont ici. Qu'est-ce que Dieu appelle pour eux? Je ne sais pas. Danny et Rachel, c'est un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple. Danny a juste dit, les gars, il y a un feu dans mon cœur. Il faut que je sois plus à l'œuvre pour le Seigneur. Fait que vous me direz quoi faire. Fait que nous, on a mis ça dans la prière et on a dit, Danny, sais-tu quoi? On ne te voit pas là. Peut-être ton épouse. Mais tu as un cœur. On aimerait ça que tu t'occupes des enfants à l'intendance d'école du dimanche. Danny a commencé à trembler. Puis il a dit, c'est bon les gars, je fais le pas de foi. Puis je l'écoutais tout à l'heure faire l'annonce sur le repas du Seigneur. Puis j'ai dit, boy, il grandit. Moi, je sais, je travaille avec lui tout le temps. Et donc aujourd'hui, Danny travaille avec moi dans le bureau d'à côté comme adjoint. Et Dieu est en train de former un berger avec ce gars-là. C'est ça que Dieu est en train de faire. Antonio et Hélène, qui servent dans la mission Mélodie, on n'a pas eu un grand ministère de formation avant Mélodie, mais c'est une sœur qui vient de cette assemblée aussi. Jessica Ellie, qui sort maintenant à Sambec. Et pour moi, c'est une missionnaire que Dieu a appelée à servir au séminaire de notre association. Mais il y a aussi plein de leaders qui ne sont pas à temps plein. Je pense à Michel, mais je pense à plein d'autres leaders, comme Yvon et Louise, que Dieu a formés dans l'Église ici. Maintenant, un dernier élément. Notre vision ne s'arrête pas à cet endroit-là. Tournez avec moi dans Actes 13, les versets 1 à 3. Et je vais aller rapidement sur ce passage. Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et cette église-là, l'église d'Antioche, est devenue une espèce de modèle d'église missionnaire. Parce que Paul et Barnabas sont partis d'Antioche, mais sont revenus faire rapport à Antioche, et des ouvriers sont sortis. Maintenant, notre vision ne s'arrête pas à s'investir dans des leaders qui forment des leaders. Notre vision va plus loin. Notre vision, c'est de devenir une église Antioche. Une église qui va avoir une vision pour l'implantation de d'autres églises. Voyez-vous, actuellement, on est environ 80 églises au Québec, dans notre association, d'accord? Pour le Québec en entier. Notre association d'églises et l'association, puis c'est pas pour se péter les bretelles, là. Au contraire, ça monte à la grandeur du défi, mais notre association est celle qui implante des églises le plus rapidement parmi tous les évangéliques au Québec. Le mandat est énorme, d'accord? Maintenant, sur 80 églises, actuellement, on a environ 3 églises Antioche dans notre association. trois églises qui ont une vision claire pour l'implantation d'églises. La formation de leaders, mais ça va plus loin, jusqu'à l'envoi de missionnaires et l'implantation de l'église. Rosemont, Terrebonne, Granby. C'est les trois seules églises qui actuellement ont cette vision-là. On a un fardeau pour Montréal. Dans la grande région de Montréal, OK, on parle de la moitié de la population du Québec, 80 églises dans notre association. Dans la grande région de Montréal, une douzaine d'églises de notre association. Et pas des églises de 600, 700, 800 personnes. Plein de petites assemblées. Plein de petites assemblées. Les évangéliques n'arrivent pas à percer les villes dans le monde. C'est comme ça partout. Ils le réalisent de plus en plus et ils prennent d'assaut les villes parce que la population mondiale est en train de s'en aller dans les villes et on n'arrive pas à percer les villes. Notre vision, ce n'est pas juste de former des leaders ici, c'est que cette église-ci devienne une église Antioche qui va prendre à cœur l'île de Montréal, qui va prendre à cœur la rive sud. Et quand ça sera le temps, ce n'est pas le temps maintenant, mais quand ça sera le temps, nous allons arriver avec cette vision-là d'implantation d'église très concrète, avec tout ce que ça va demander comme sacrifice de la part de l'Église. Parce que notre vision, c'est de prendre d'assaut Montréal. On a un défi particulier aussi. Actuellement, les églises évangéliques au Québec sont en train de grandir à travers l'immigration, ce qui est génial. Nos églises sont en train de devenir de plus en plus multiculturelles. Ça dit quelque chose de grave sur nos assemblées évangéliques. Ça dit que nous ne sommes pas capables de rejoindre les Québécois de souche. Actuellement, c'est ça la réalité partout dans les églises évangéliques au Québec. Nous n'arrivons pas à rejoindre les Québécois de souche. Les gens qui se convertissent, ce sont des immigrants. C'est génial, on est content pour ce que ça donne comme couleur, comme vie dans nos églises. Mais la réalité, c'est que la majorité n'est pas atteinte encore. Et donc, on doit comprendre comment atteindre ces gens-là, comment aller connecter avec eux. Ils sont tellement confortables dans leur opulence qu'ils ne sentent pas qu'ils ont besoin de Christ. Notre vision, c'est de former des leaders qui vont aller implanter des églises, qui vont aller aider à implanter des églises pour devenir une église Antioche. C'est là qu'on s'en va. Alors, j'espère que la série vous a aidé à comprendre les choses qui sont importantes pour nous, les choses qu'on met devant vous. Et si vous pouvez aller à la prochaine acétate, les acétates de résumé de la série, là, je vais vous demander de faire quelque chose, d'accord? On avait sur notre cœur de vous communiquer clairement la direction qu'on prend, de vous communiquer clairement les valeurs qui sont importantes pour nous. J'espère que la série vous a aidé à comprendre mieux des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Maintenant, le fardeau qu'il y a sur mon cœur, le désir qu'il y a sur mon cœur, ce n'est pas seulement que vous compreniez, ce n'est pas seulement que vous ayez une plus grande compréhension. Je l'ai dit à travers la série, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime passionnément. Je suis consommé jour et nuit. Cette nuit, je ne dormais pas, je priais pour l'Église. J'avais de la difficulté à dormir parce que j'étais préoccupé parce que les choses que je voulais vous communiquer. C'est ma passion, c'est la passion des anciens. On vous aime énormément et c'est une joie pour nous de se donner comme ça. On n'a aucun mérite, Dieu a placé cette passion-là dans notre cœur, c'est tout. Maintenant, le désir, le fardeau qu'il y a sur notre cœur, ce n'est pas seulement une plus grande compréhension de la vision, c'est une plus grande adhésion à cette vision-là. Alors là, on va faire un exercice, d'accord? Vous avez reçu dans le dépliant ce matin un petit formulaire d'évaluation personnelle. C'est pour vous, vous allez partir avec. C'est hyper confidentiel, top secret. Juste prendre le formulaire, on va prendre une dizaine de minutes ensemble avant de terminer avec des chants. Si vous n'en avez pas une copie, juste levez la main, les placeurs vont vous en apporter une copie, d'accord? Vous devez en avoir une en main chacun, le petit formulaire d'évaluation, et on a des crayons aussi. Si j'ai quelques placeurs qui pouvaient donner un coup de main à Danny, s'il vous plaît, j'apprécierais. Juste levez la main. Mais il nous reste d'autres copies, par exemple, du formulaire, d'accord? On en a imprimé en plus. Juste levez la main, vous devez avoir ça en main. Avant de commencer à remplir ça, ce qu'on fait dans un premier temps, d'accord, c'est que je vais vous demander juste de vous examiner personnellement sur chacun des éléments qu'on a vus ensemble à travers la série. D'accord? Et à la fin de ça, à la fin de l'exercice, je vais vous demander de vous engager à travailler sur un élément, personnellement, dans la prochaine année. D'accord? J'ai absolument besoin d'avoir une copie en main ici en avant. Je m'excuse. On est prêts? Vous avez des crayons? On va prendre quelques minutes. Merci, Alex. Première chose qu'on a vue ensemble, c'est le perfectionnement. Le rôle des anciens est de tout mettre en place pour le perfectionnement des saints. D'accord? Je vais commencer. Je saisis, je comprends la direction donnée par les anciens. Évaluez-vous de 1 à 5. Je comprends, il n'y a pas de question piège, d'accord? Mais tout à l'heure, je vais vous demander de prendre une décision pratique pour passer à l'action en relation avec un seul de tous ces éléments-là. Peut-être ce sera celui-là, peut-être ce sera un autre. Je saisis la direction donnée par les anciens. Vous pouvez vous évaluer. 5, c'est clair. 1, c'est flou. D'accord? 5 étant le plus haut. 2, à la stature de Christ. On a vu ça ensemble. La transformation, l'upgrade que Dieu veut faire en nous, c'est de nous amener à ressembler à Jésus-Christ, à être semblable à lui. La question que j'ai pour vous, c'est j'embarque à fond dans le projet de Dieu. Vous le comprenez? Est-ce que vous embarquez ou il y a toutes sortes de raisons qui font que vous dites non? Non. OK, un peu. Ou vous avez le cœur disposé à dire, Seigneur, change-moi. Je veux te ressembler, Christ. Évaluez-vous. Troisième, unité, diversité. Notre unité se trouve en Jésus et notre diversité est une bénédiction de Dieu. Ma question pour vous, je suis engagé dans des relations sérieuses pour grandir et aider à grandir. Vous pouvez vous évaluer. Ça se passe ailleurs qu'ici pour vous donner un indice. Ça se passe ailleurs que le dimanche matin. 4, service. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. J'offre mon temps, mes énergies pour servir Dieu et son Église. Si vous n'avez pas de feuille, vous pouvez griffonner sur un bout de papier. Je lis toutes les questions. Alors, vous pouvez vous évaluer 1 à 5. 5, je m'excuse. Caring. N'est-ce pas, c'était le conseil de Jéthro qu'on applique ici en ayant des petits groupes pour pouvoir prendre soin de tout le monde. Je suis impliqué dans des relations dans mon petit groupe. C'est sous-entendu que vous êtes dans un petit groupe. Fait que si vous n'êtes pas dans un petit groupe, ben vous pouvez encercler 0 ou 1. Mais évidemment, on cherche plus que juste assister à un petit groupe. Alors, je suis impliqué dans des relations dans mon petit groupe. 6, training. Moïse avait son Josué, Jésus ses disciples, Paul son Timothée. Je cherche activement à me reproduire dans mon service. Évaluez-vous d'un à cinq. Sept, coaching, faire des disciples de toutes les nations. Alors là, j'ai 3 éléments pour s'évaluer, pour refléter ça. Je suis formé pour présenter l'Évangile. Vous sentez que vous êtes équipé, vous êtes en mesure de bien présenter l'Évangile, le message de la bonne nouvelle. 1 à 5. Je m'implique dans l'évangélisation. Alors évidemment, ça peut être à travers la fusion, ça peut être à travers le cours de EE, ça peut être autrement, d'accord? Mais vous êtes engagé dans l'évangélisation. Ça peut être informellement, ce n'est pas obligé d'être à travers un ministère officiel. Je m'implique dans l'évangélisation. Je m'implique dans la formation de disciples en coachant ou en étant coaché. Et le dernier, perfectionner pour perfectionner. Je suis prêt à investir du temps pour être formé comme leader. 1 à 5. Il Maintenant, on va devenir pratique. D'accord? Je ne vous demande pas de travailler sur tout en même temps, parce que je ne pense pas que le Seigneur vous le demande non plus. Il ne me le demande pas moi non plus. Je m'engage à travailler sur un de ces éléments-là en faisant. Et là, je vais vous donner une liste d'idées pratiques. Si vous dites, bon, OK, je pense que ce que je voudrais travailler en premier, c'est le numéro 4. Bien, on va arriver au numéro 4 avec des exemples pratiques. D'accord? Et vous en choisirez que vous désirez appliquer dans la prochaine année pour pouvoir grandir dans ce domaine-là. Si l'élément sur lequel vous voulez travailler, c'est comprendre la vision des anciens, bien évidemment, le cours à prendre, c'est prendre le cours de membre, le cours l'Église de l'espoir. Si la vision n'est toujours pas suffisamment claire pour vous, c'est possible, peut-être même que vous êtes arrivé au milieu de la série, peut-être que vous voulez écouter la série du début. Juste aller la chercher sur le site Internet ou aller l'acheter à l'arrière, mais peut-être que vous voulez réécouter la série ou prendre le cours de membre. Et donc, vous allez saisir la vision parce que Michel me le disait, il recevait le commentaire, prendre le cours l'Église de l'espoir, suivre la série, beaucoup de choses qui se répètent. C'était très pédagogique, comme dirait Oscar. Stature parfaite de Christ, c'est là-dessus que je veux travailler. Mais peut-être la première chose à faire, c'est une prière de repentance pour des idoles précises. Vous vous rappelez la question, c'était « Je suis engagé à fond dans le projet de Dieu pour moi, j'embarque à fond ». Non, je n'embarque pas à fond parce qu'il y a des idoles dans ma vie qui prennent la place de Dieu, que ce soit le matérialisme, que ce soit la sexualité, que ce soit les relations. C'est des idoles et c'est ça qui est ma préoccupation, c'est ça. Ce sont mes enfants, c'est ma carrière, c'est ma maison. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Souvent de très bonnes choses qu'on transforme en idoles dans nos vies. Prière de repentance pour des idoles précises, je m'engage à adresser ça. Abandon de ces idoles, c'est une chose de se repentir. Ça doit se traduire en action. Je suis prêt à prendre des actions concrètes pour les chasser de ma vie, ces idoles-là. Engagement avec deux amis à prier et à être redevable. Vous voulez grandir, vous devez rendre des comptes. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas seul dans notre coin. Alors peut-être ça va être d'aller voir deux amis et de dire, regarde, il faut que je travaille là-dessus. Ça m'empêche constamment d'avoir un cœur passionné pour Christ et pour son projet pour ma vie. Parce que je retombe là-dedans et j'ai besoin d'être redevable à quelqu'un. Engagement avec deux amis à prier, être redevable. Lire la Bible tous les jours. Assister à un cours biblique chaque session. On a des cours ici de 9h à 10h tous les dimanches. On prend seulement une pause pendant l'été. Peut-être que c'est ça votre décision pour grandir à la stature parfaite de Christ. Si c'est le troisième domaine que vous décidez de travailler, unité et diversité, voici des choses pratiques que vous pouvez faire. Régler le ou les conflits qui m'empêchent d'entrer en relation. Vous avez des conflits avec des gens et vous fuyez ces relations-là. Vous êtes paralysé depuis des années peut-être. Allez les régler. Allez les régler. Allez demander pardon. Allez pardonner. Allez rétablir la relation. Me rapprocher d'une personne particulière pour découvrir ce que Dieu fait dans sa vie. Celui-là, je ne suis pas capable de le sentir. Je n'ai rien contre lui, mais je ne sais pas. Ça ne clique pas. Ça ne clique pas, mais c'est parce que Dieu veut t'apprendre des choses. Il faut que tu ailles voir comment la grâce est en train d'opérer dans sa vie. Aider à l'intégration de toute personne nouvelle dans l'Église. C'est prendre la décision que je vais vers des nouvelles personnes parce que l'unité et la diversité sont importantes dans l'Église. M'investir dans des relations plus profondes pour grandir. OK, si vous dites que vous voulez travailler sur le service, qu'est-ce que vous pouvez faire? Danny, j'ai du travail pour toi. Demandez à Danny Gosselin où est-ce qu'il y a des besoins de service, peut-être par courriel, okay? Peut-être pas tout ce matin. Demandez à Danny où il y a des besoins de service précis. Être serviteur, c'est pas juste dire « Ah, Seigneur, j'aimerais peut-être ça servir là-dedans ». Ça, pour moi, c'est le pire des serviteurs. Les serviteurs que j'aime, c'est ceux qui viennent et qui me disent « Yannick, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je sais que le Seigneur va faire des belles choses avec eux. Demandez à Danny où il y a des besoins de servir. De service. Demandez conseil à mon petit groupe. Parlez-en avec votre petit groupe. Dites que vous désirez servir davantage. Demandez conseil. Eux vous connaissent plus, vont pouvoir vous diriger selon vos dons, vos talents. Renoncez à une soirée par semaine pour servir. Me rendre disponible pour être formé pour un ministère. Allez voir quelqu'un qui est dans le service et dites, moi je suis disponible, je vais être formé. Servir des gens dans le besoin, ce n'est pas obligé d'être toujours à travers des ministères formels de l'Église. Arriver plus tôt le dimanche matin pour servir. On a du travail pour vous. Renoncer une année au cours biblique de 9h à 10h pour aller servir à l'école du dimanche. Hein, Danny? Amen. Caring, c'est là-dessus que je veux travailler. Qu'est-ce que je peux faire? Joindre un petit groupe, évidemment. prier pour les membres de mon petit groupe, m'occuper personnellement d'accueillir et intégrer chaque nouvelle personne dans mon petit groupe. Quand il y a une nouvelle personne dans votre petit groupe, c'est comme s'il y avait un nouvel enfant qui rentrait dans la famille. C'est totalement pathétique de voir à quel point parfois on traite ces gens-là comme si c'était un enfant non voulu, non souhaité. Un nouveau bébé qui arrive dans la famille, tout le monde saute dessus. Décharger le dirigeant de mon petit groupe en prenant une tâche. M'impliquer comme dirigeant d'un groupe. Partir un groupe d'intérêt dans un domaine précis. Dieu vous a mis à cœur d'aider tel besoin, telle personne, tel groupe de personnes. Venez nous voir, dites que vous avez ça à cœur, on va pouvoir vous équiper. Et il y a des besoins précis qui se répondent bien dans un groupe d'intérêt comme ça, qui devient un petit groupe. Training, je choisis de ne pas choisir selon l'apparence. Moi, je vais avoir un Timothée, je ne choisirai pas selon l'apparence, mais selon la disponibilité de la personne. Je vais approcher des personnes pour avoir un ou une Timothée dans mon service. Je ne broncherai pas lorsque je serai sous le ministère d'un Timothée plutôt que d'une personne qui est entièrement formée. Ça peut être la décision que vous prenez, hein? Ah, tu sais, Yannick, c'est parce que j'aurais bien écouté les conseils de quelqu'un d'autre, mais il n'est pas assez compétent. OK, c'est ça. Pas de vision pour la formation des ouvriers. Peut-être qu'il n'y a pas toutes les réponses. Mais je vais arrêter de me rebuter contre ça. Je vais m'offrir à différentes personnes pour être leur Timothée. Je vais accepter celui ou celle que le Seigneur mettra à cœur. J'approche des gens. C'est peut-être pas par lui que j'aurais voulu être formé, mais lui est prêt à me prendre. J'ai un cœur de serviteur, je suis prêt à grandir. Dans mon service, je suis prêt à être formé. 7, coaching. Prendre le cours d'évangélisation. Si on veut atteindre toutes les nations, faire de toutes les nations des disciples, prochaine session, prenez le cours d'évangélisation. M'impliquer pour quelques sessions dans la fusion. Je ne vais pas juste aller prendre le cours la prochaine session, mais j'ai la vision de le faire pendant 2-3 sessions. Un an et demi à m'impliquer là pour pouvoir en former d'autres aussi, parce que je veux grandir dans ce domaine-là. Prier et manifester ma disponibilité pour être formé comme disciple. Je veux grandir, je veux que quelqu'un me forme. Prendre le cours de formation de disciple à la prochaine session. Apprendre comment coacher. M'engager personnellement à former des disciples. Et 8e, perfectionner pour perfectionner. Je fais le pas de me rendre disponible pour être formé comme leader. C'est un acte de foi. Être disponible pour apprendre à diriger un petit groupe. Être disponible pour prendre la charge d'un ministère. C'est pas la même chose que s'impliquer, hein? Et le communiquer à Danny, encore une fois. M'engager dans la relève de Sam Beck. Communiquer aux anciens que j'aspire à la charge d'évêque, d'anciens, de pasteurs. Ou peut-être encore, et là c'est vous qui le savez, répondre enfin à l'appel que Dieu a placé sur ma vie, parce que certains d'entre vous, vous connaissez l'appel que Dieu a placé sur votre vie et vous renoncez, vous refusez de répondre à cet appel-là depuis des années peut-être. J'espère que ça a été pratique pour vous. Et ce que je vous demande de faire, c'est de prendre une décision concrète en relation avec un de ces éléments-là, de le partager. Vous gardez la feuille pour vous, d'accord? Mais de le partager dans votre petit groupe cette semaine. Alors, j'aimerais que tous les petits groupes cette semaine ou la prochaine fois qu'ils se réunissent, vous partagiez ce que vous voulez travailler et que vous puissiez prier les uns pour les autres pour qu'on puisse avancer ensemble. Amen? Notre vision, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. La semaine prochaine, on va commencer à parler de ce qu'on ne fait pas dans cette église. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ton église est merveilleuse. Ton église est composée d'hommes et de femmes que tu as rachetés au prix de ton sang. Et ce projet-là, Seigneur, qui était sur ton cœur de toute éternité, me fascine. Non seulement le fait, Seigneur, que tu puisses prendre un être comme moi, faire de moi ton enfant et me transformer à l'image de Christ, mais cette communauté, ce peuple de Dieu, Seigneur, ce projet qui était sur ton cœur, cette épouse que tu t'es rachetée au prix de ton sang, ça me fascine, Seigneur. Et je veux voir cette Église grandir à ta ressemblance, que dans nos relations, dans notre vision, dans notre service, dans notre caractère, nous te ressemblions ensemble, Seigneur. et qu'on puisse entrer en relation avec des non-chrétiens dans cette communauté et partout ailleurs, et qu'ils voient cette vie différente, cette super communauté parce qu'elle te ressemble, Seigneur. Et que des leaders jaillissent, Seigneur. Et qu'on puisse envoyer pour l'implantation d'autres églises et envoyer des missionnaires, Seigneur. Viens nous donner cette passion pour ton Église. Et Père, encore une fois, je te le demande, s'il y a des gens ici ce matin qui sont amers contre l'Église, parce qu'ils ont eu des déceptions, parce qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes, Seigneur. Seigneur Jésus, dans ta grâce, je te demande de les aider à saisir. Viens les convaincre, toi, par ton esprit, que l'Église, c'est ton épouse. L'Église, c'est ta tendre épouse pour laquelle tu t'es offert en sacrifice. Et mépriser l'Église, c'est mépriser ton épouse, Seigneur. Tu as promis que tu la sanctifierais. Tu as promis que tu la bâtirais, cette Église, Seigneur. Et moi, je veux l'aimer tendrement, malgré toutes ses faiblesses. Et je veux croire en toi, Jésus, pour la transformer. Croire que cette Église va te ressembler de plus en plus, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix, pour mes péchés, pour nos péchés, Seigneur. Merci parce que tu places devant nous une vision qui est plus grande que nous-mêmes, Seigneur. Tu places devant nous une vision de voir des hommes et des femmes se réfugier dans ton sacrifice pour être réconciliés avec le Dieu créateur, avec notre Père céleste. Et de voir ces hommes et ces femmes devenir des hommes et des femmes de Dieu qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. Et de voir parmi eux des leaders qui vont prendre la relève, qui vont partir implanter des églises, partir sur le champ missionnaire, partir dans la communauté pour aller faire à leur tour des disciples. Sois béni, Jésus. Nous t'aimons tendrement et jusqu'à ton retour, par ta grâce, ce sera notre plus grande joie de poursuivre cette vision, Seigneur. Amen.